Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet important, celui de la guérison. Et je prie vraiment de tout mon cœur que vous compreniez bien les choses que je vais vous dire, parce que elles sont importantes et très souvent enseignées d'une façon légère dans les églises. Je voudrais aller un peu plus profond. Je prie donc le Seigneur Jésus de m'aider à être le plus clair possible. Et pour vous montrer que la volonté de Dieu, c'est de guérir chaque chrétien. Et de vous montrer par quels moyens il veut le faire aussi. Vous savez, la mort de Christ fait référence à deux grandes alliances de l'Ancien Testament. L'alliance conclue avec Abraham et l'alliance de la loi de Moïse. Alors beaucoup considèrent que la loi de Moïse est séparée et complètement distincte de l'alliance conclue avec Abraham, mais en fait, il n'en est rien. D'après le Nouveau Testament, la loi de Moïse, elle a été ajoutée à l'alliance avec Abraham et elle est restée valide jusqu'à la mort de Christ. Cela étant dit, parce qu'il faut le dire, nous devons nous poser deux questions. Quelle est la relation entre la loi de Moïse et l'alliance conclue avec Abraham? Et quel est le rapport avec le sujet de la guérison divine? Alors, je vais répondre à ces deux questions avec l'aide du Seigneur. Pourquoi il est nécessaire que Jésus guérisse tous les chrétiens? Pourquoi c'est sa volonté? Eh bien, dans l'alliance conclue avec Abraham, Dieu avait promis au genre humain un certain nombre de choses formidables. À commencer par Abraham, Dieu lui avait promis, ainsi qu'à ses descendants, et finalement à tout le genre humain, le salut pour leur âme, la guérison pour leur corps, la prospérité financière et matérielle, et le bien-être pour leur famille. Dans l'ère du Nouveau Testament, donc depuis que Jésus est venu, les chrétiens sont greffés sur le tronc d'Abraham, c'est ce que l'apôtre nous dit, de telle sorte que les promesses faites par Dieu à Abraham appartiennent à tous les chrétiens qui croient vraiment. Tout chrétien a donc le droit, dès à présent, de recevoir la guérison pour son corps, la prospérité financière et matérielle et le bien-être pour sa famille en plus du salut de son âme. Alors tout ça était inclus dans les promesses faites par Dieu à Abraham, à ses descendants et de manière prophétique à toutes les nations. Bon, près de 400 ans plus tard, Dieu ajoute la loi à cette alliance conclue avec Abraham, afin de régler le problème des péchés commis par les descendants d'Abraham. Mais Dieu a voulu régler le problème de ces péchés de telle manière que les descendants d'Abraham ne puissent pas perdre les bénédictions représentées par le salut de leur âme, la guérison de leur corps, la prospérité financière et matérielle et le bien-être de leur famille. Parce que le péché met une séparation entre Dieu et l'homme. Alors il a donné une loi pour que cela puisse être réglé. En d'autres termes, Dieu a introduit la loi pour régler le problème du péché d'une manière qui lui permettrait à chacun de maintenir les bénédictions promises à Abraham en ce qui concerne le salut de leur âme, la guérison de leur corps, la prospérité financière et matérielle et le bien-être de leur famille. Alors je sais que beaucoup considèrent la loi de Moïse comme un simple moyen de rendre les Juifs conscients de leur culpabilité. Ils considèrent que Dieu avait conclu la loi pour attirer la culpabilité, la condamnation sur son peuple, en lui donnant une série d'interdictions auxquelles personne ne pouvait obéir, en faisant ainsi de la loi un instrument de mort et un instrument de condamnation. Alors, c'est effectivement ce que la loi serait si Dieu n'y avait pas inclus tout un système de sacrifices. Par conséquent, dans l'Ancien Testament, quand un juif péchait, il lui suffisait d'obtenir le bon sacrifice, dans un bon esprit, pour que les bénédictions promises à Abraham continuent à s'écouler sur lui dans toute leur plénitude, que ce soit pour le salut de son âme, pour la guérison de son corps, pour sa prospérité financière ou matérielle, ou pour le bien-être de sa famille. Bon, je vais le dire autrement, Dieu a ajouté la loi à l'alliance faite avec Abraham pour pouvoir régler le problème du péché tout en conservant le bénéfice des promesses faites à Abraham et à sa descendance. Dieu avait donné dans la loi toute une série de commandements et d'interdictions. Et quand un juif violait une loi particulière, mais dès qu'il accomplissait le sacrifice requis, eh bien, il continuait à recevoir le bénéfice des quatre bénédictions promises à Abraham et que je vous ai déjà mentionnées. En revanche, quand un juif commettait un péché mais qu'il n'accomplissait pas le sacrifice requis, eh bien, toutes les bénédictions promises à Abraham cessaient immédiatement de se manifester dans sa vie. Il perdait sa guérison, sa prospérité, le bien-être pour sa famille et même son salut tant qu'il n'avait pas offert le sacrifice exigé. Mais dès qu'il se repentait de son péché et qu'il manifestait sa repentance en offrant le sacrifice demandé, les bénédictions promises à Abraham recommençaient à se déverser sur lui à l'instant où il offrait son sacrifice. Maintenant, quand Jésus est venu, il est devenu le sacrifice ultime pour le péché. Par conséquent, quand un juif reçoit Christ comme étant son sacrifice ultime pour le péché selon la loi de Moïse, cela signifie qu'il continue à bénéficier sans interruption des bénédictions associées à l'alliance avec Abraham. Il conserve donc ce qu'il avait déjà par l'alliance avec Abraham grâce à son droit de naissance juif, c'est-à-dire le salut de son âme, la guérison de son corps, la prospérité matérielle et financière et le bien-être pour sa famille. En revanche, le juif qui refuse d'accepter Jésus en tant qu'ultime sacrifice divin pour le péché selon la loi de Moïse et qui préfère se confier dans le sacrifice des taureaux et des boucs, celui-là perd toutes les bénédictions reçues en vertu de sa naissance sous l'alliance avec Abraham. Parce que ce qui est terrible, c'est que Dieu n'accepte plus le sang des taureaux et des boucs. Il n'y a plus de sacrifice comme ça maintenant. Dieu ne l'accepte plus. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de... c'est fini. Alors ce juif-là est tout autant sur la voie de l'enfer et de la perdition que n'importe quel païen. Et lorsqu'un païen accepte Christ comme son sauveur personnel, ben il est greffé sur le tronc d'Abraham et il participe à ses bénédictions. Grâce à cette greffe, il peut recevoir les mêmes bénédictions qui étaient celles des Juifs depuis le livre de la Genèse. Est-ce que c'est clair? Salut, guérison, prospérité, bien-être pour sa famille. Par cette greffe dont nous bénéficions, nous qui faisons partie des païens, des non-juifs, des gentils, comme dit la Bible, nous faisons partie de la descendance d'Abraham. À cause de cette greffe, nous avons été greffés. Nous devenons membres du groupe des descendants d'Abraham. En outre, les païens greffés sur le trône d'Abraham reçoivent les mêmes bénédictions qui étaient autrefois réservées aux Juifs. À présent, Juifs et païens sont héritiers des mêmes bénédictions promises à Abraham. Jésus a accompli 6 choses pour abolir la loi de Moïse. Et la mort de Christ a représenté l'ultime sacrifice divin pour le péché. Par sa mort, d'une part, il a ratifié l'alliance avec Abraham, et d'autre part, il a aboli la loi de Moïse. Alors, je vais vous lire 2 passages. Le premier se trouve dans Éphésiens 2, 14, 16. Voilà ce qu'il est dit. « Car il est notre paix, lui, qui des deux, juif et non-juif, n'en a fait qu'un. Et il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Maintenant, il y a un deuxième passage, c'est Colossiens 2, 14. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Donc l'acte, c'est un acte officiel, c'est la loi de Moïse. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. » Il a cloué la loi de Moïse sur la croix. Ces passages nous révèlent que Jésus, par sa mort, a accompli 6 choses en ce qui concerne la loi. Premièrement, il l'a renversée. Deuxièmement, il l'a anéantie. Troisièmement, il l'a abolie. Quatrièmement, il l'a détruite. Cinquièmement, il l'a effacée. Et sixièmement, il l'a clouée à la croix. Par conséquent, la mort de Jésus est directement reliée aux deux grandes alliances de l'Ancien Testament, l'alliance conclue avec Abraham et l'alliance conclue par la loi de Moïse. Par sa mort, Jésus a ratifié la première alliance, celle faite avec Abraham, et il a aboli la seconde, celle faite avec Moïse. Et puisque la mort de Jésus a ratifié l'alliance conclue avec Abraham qui nous garantissait la guérison pour notre corps, il est donc parfaitement normal que les Écritures répètent à de multiples reprises que la volonté de Dieu soit toujours de nous guérir. En effet, c'est un fait établi que les Écritures nous expliquent abondamment cette vérité. Elles nous l'expliquent en ceci que Dieu a prévu au moins huit moyens pour nous transmettre cette guérison. Alors, je vais avoir l'occasion de vous parler en détail de ces moyens utilisés par Dieu pour nous transmettre la guérison. Un de ces moyens ne requiert même pas la foi de celui qui reçoit la guérison, tandis que les sept autres requièrent un acte de foi de la part du malade. Nous étudierons, on va étudier ça maintenant, ces huit moyens de guérison en deux parties distinctes. Il faut être clair. Première partie. Premier moyen de guérison divine. Dieu guérit par l'onction du Saint-Esprit et le don des guérisons. Comme il est écrit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Ça, c'est dans Actes chapitre 19, versets 11 et 12. Un autre passage dans 1 Corinthiens 12, 7, 9. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Alors, il faut garder fermement à l'esprit qu'il s'agit là du seul moyen de guérison divine qui ne requiert aucun acte de foi de la part de celui qui reçoit la guérison. Il s'agit de cette célèbre onction, j'aime pas trop le mot, mais enfin, dont nous faisons un si grand cas dans nos églises charismatiques. Mais en faisant un aussi grand cas de cette onction, on l'a aussi rendue dangereuse. Elle est devenue dangereuse parce que nous avons donné l'impression aux non-initiés que si l'on n'est pas guéri dans l'une de nos grande convention de guérison, alors tout est perdu. Nous avons donc entretenu deux impressions fausses, que Dieu ne nous aime pas, que ce n'est pas sa volonté de nous guérir. Alors, beaucoup de chrétiens laissent tout tomber et ils se laissent aller et ils peuvent mourir si leur maladie est grave. Ceux qui dirigent aujourd'hui le mouvement de la guérison divine doivent corriger cette terrible erreur qui a consisté à trop mettre l'accent sur l'onction et à l'exclusion des sept autres moyens de guérison divine proposés par la Bible. Nous devons insister aussi fortement sur les deux vérités bibliques. La première, c'est que l'onction du Saint-Esprit n'est que l'un des huit moyens de guérison prévus par Dieu. Nous devons souligner le fait que cette onction est souveraine. Elle est sous le contrôle exclusif de Dieu et personne ne peut influencer Dieu ni forcer Dieu à toucher ou à guérir telle ou telle personne au cours d'une réunion. Dieu est absolument souverain dans ce domaine. Cela dit, enfin je vais le redire peut-être en d'autres termes quand même, Dieu guérit certains malades d'une manière miraculeuse au moyen de cette onction du Saint-Esprit manifestée par certains ministères. Et il me semble toutefois que cette onction se manifeste surtout dans les grands rassemblements de guérison et qu'un grand nombre de malades n'y sont quand même pas guéris. Je voudrais souligner ici que ce n'est pas la grandeur ou la réputation de l'homme de Dieu conduisant la réunion de guérison qui importe. Vous ne pouvez pas avoir la certitude que vous allez être guéri par cette onction. Il faut le savoir. Bien que Dieu puisse toucher ou guérir des malades assis à côté de vous, vous pouvez très bien ne pas être guéri vous-même par cette onction miraculeuse. Vous ne pouvez donc pas dépendre de cette onction. Mais vous pouvez toujours dépendre des sept autres moyens de guérison divine. Vous pouvez toujours recevoir une guérison par un de ces moyens. Ces moyens de guérison sont toujours disponibles pour transmettre la guérison à tous les chrétiens. Je lance un appel aux gens qui ont un ministère et qui dirigent des réunions de guérison divine. Je vous demande de mettre l'accent sur les 7 autres moyens utilisés par Dieu pour guérir. Ces enfants, tout autant que sur l'onction du Saint-Esprit, qu'ils ne peuvent pas contrôler. Dieu veut guérir ses enfants. Trop d'enfants de Dieu meurent prématurément parce que nous mettons trop l'accent sur l'onction du Saint-Esprit, tout en ne mettant pas assez sur les 7 autres moyens de guérison divine. Alors la deuxième partie, les 7 autres moyens de guérison divine, ces 7 autres moyens de guérison divine exigent un acte de foi de la part de celui qui veut être guéri. Alors grâce à l'un d'eux, un de ces 7 moyens, tout chrétien peut pouvoir recevoir une guérison du Seigneur Jésus. Il n'est pas obligé de transmettre la guérison par un don des guérisons ou par son onction souveraine au cours d'une réunion. Puisque le Seigneur n'est pas obligé de guérir tous les malades de cette manière, tous ceux qui exercent des responsabilités dans le mouvement de la guérison divine, ne devraient-ils pas affirmer clairement cette vérité afin que ça soit clair dans l'esprit de tous? Alors je vais vous parler du deuxième moyen de guérison. Dieu donne la guérison au moyen de l'imposition des mains. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Ça, vous trouvez dans Marc 16, 17, 18. En ayant recours à ces moyens, vous devez accomplir un acte de foi très simple. Vous devez simplement poser vos mains sur le malade et dire « Au nom de Jésus, sois guéri ». Si c'est vous qui êtes malade, vous pouvez choisir de demander à un chrétien de vous imposer les mains. Troisième moyen de guérison. Dieu donne la guérison au moyen de l'onction d'huile accompagnée de la prière de la foi. C'est des choses que je vous ai déjà dites, mais là je veux les résumer clairement. Dans Marc 6, 13, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Quelqu'un parmi vous était malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Excusez-moi, j'ai un truc qui sonne là. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ça c'est dans Jacques 5, 14, 16, faut savoir. En ayant recours à ce moyen, l'acte de foi que vous devez faire est également très simple. Vous devez oindre d'huile le malade et demander à Dieu de le guérir sur la base de sa propre parole. Si c'est vous qui êtes malade, vous devez demander à des anciens de l'Église de venir prier pour vous. Voilà, ça c'est le troisième moyen pour être guéri. Le quatrième moyen de guérison est celui-ci. Dieu donne la guérison quand vous croyez dans votre cœur et que vous confessez de la bouche. Je vous le dis, écoutez, ça c'est dans Marc 11, 23. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. L'acte de foi que vous devez faire ici consiste à commander au nom de Jésus à la maladie de quitter votre corps ou le corps de la personne pour laquelle vous priez. Vous obtiendrez ce que vous aurez dit. Il se peut que la guérison ne se manifeste pas au moment où vous donnez l'ordre. Dans ce cas, persévérez à donner votre ordre, même si vous devez le faire plusieurs fois, à plusieurs heures, pendant plusieurs heures ou plusieurs jours ou plusieurs semaines d'intervalle. Vous obtiendrez la victoire pourvu que vous n'arrêtiez pas de résister jusqu'à la victoire, jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Pour avoir la victoire, il vous faut mener une guerre incessante contre la maladie. C'est une guerre. Maintenant, le cinquième moyen de guérison. Dieu donne la guérison quand deux ou plusieurs personnes s'accordent sur la terre dans le même cœur. Il est dit dans Matthieu 18, 19, 20, c'est Jésus qui parle et qui dit, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans ce cas, vous devez trouver un autre chrétien qui est d'accord avec vous pour demander votre guérison ou la guérison d'un malade. Alors vous assurez cependant que celui qui sera d'accord avec vous soit un véritable chrétien, c'est la moindre des choses, et pas seulement quelqu'un qui se dit chrétien. Sixième moyen de guérison. Dieu donne la guérison quand vous croyez, que vous recevez lorsque vous priez. Alors là, c'est Marc, c'est Jésus qui parle dans Marc 11, 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans les Écritures, le fait de croire implique un acte de foi correspondant à ce que l'on croit. Dans votre cas, vous devez vous comporter comme si vous étiez guéri, avant même de voir votre guérison manifestée. En d'autres termes, faites des projets d'avenir exactement comme si votre maladie était déjà passée. C'est ça, croire dans la Bible. Maintenant, le septième moyen de guérison. Dieu donne la guérison au moment de la Sainte Cène. Lorsque vous comprenez sa signification et que vous en recevez le bénéfice par la foi, car c'est quand même écrit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ça, c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 11, 26 à 30. Alors, dans ce cas-là, votre part consiste à comprendre la différence entre le corps du Seigneur et son sang. Son sang a été versé pour la rémission de vos péchés. Son corps a été meurtri pour votre guérison physique. Alors, quand vous prenez la Sainte Cène, avec une claire compréhension de cette différence, Dieu fera passer dans votre corps la guérison qui a été acquise pour vous quand Christ a été meurtri dans son corps physique. C'est clair? Huitième moyen de guérison. Dieu donne la guérison quand on utilise le nom de Jésus comme un bélier ou un marteau. Dans Jean 14, 13, 14, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pierre et Jean montaient un jour ensemble au temple, à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure, et il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Labèle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit se lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous trouvez ça dans Actes 3, versets 1 à 8. Alors, votre part consiste ici tout simplement à commander à la maladie de partir au nom de Jésus. La signification précise du mot grec traduit par « demander » au verset 13 et 14 de Jean 14 qu'on vient de lire est en réalité « commander ». Dans ce mot, quand ce mot est employé dans le sens de demander quelque chose ou demander une chose quelconque, il devrait plutôt être traduit par « commander ». Quand ce mot est employé en relation avec Dieu, il devrait être traduit par « demander » de la manière la plus ferme possible. Alors, on ne peut pas commander Dieu, mais nous sommes autorisés à ordonner que quelque chose se produise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, quand la maladie fait partie de ces choses quelconques que nous pouvons demander, eh bien, notre part consiste simplement à commander à la maladie de partir au nom de Jésus-Christ. Continuez à lui ordonner de partir tant qu'il y a encore des symptômes. Pour beaucoup de maladies, il est nécessaire de continuer à leur ordonner de partir pendant un certain temps avant de constater une victoire complète. C'est vrai, mes frères et sœurs. Commencez donc dès à présent et continuez à ordonner à la maladie de partir jusqu'à ce que vous obteniez une complète victoire au nom de Jésus. La plupart des guérisons reçues en employant ce moyen, les moyens 2 à 8, sont obtenus à la suite d'une véritable guerre, une guerre spirituelle. C'est un processus qui peut s'étendre sur un temps relativement long. Ne vous découragez pas. Ayez foi, continuez, persévérez jusqu'à la victoire, parce que tout cela fait partie des promesses faites à Abraham. Et le sacrifice parfait, ce n'est pas le sacrifice d'un taureau ou d'un bouc de la loi de Moïse, ça a été aboli, mais c'est le sacrifice de Jésus. Donc, tout est pour vous. Ayez confiance, ayez foi, agissez tel que je vous l'ai enseigné. Je crois que je ne peux pas vous le dire mieux. Enfin, aujourd'hui, j'ai fait de tout mon cœur pour que vous compreniez, et j'espère que vous avez compris. Père, je te demande que ceux qui sont malades et qui m'écoutent puissent recevoir leur guérison. Je te demande aussi qu'ils puissent apporter de la guérison à ceux qu'ils connaissent et qui sont malades. Je te demande, Père, au nom de Jésus, afin que ton nom seul soit glorifié, que le seul nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, soit glorifié. Amen et Amen. Au revoir.